Et bonjour à tous et bonne fête, maman. On est très contents de nos mamans, en tout cas, bien contents de tout ce que vous pouvez faire. On veut vous le dire, on veut vous dire merci pour tout ce que vous faites. Et certainement qu'aujourd'hui, on ne veut pas manquer l'occasion, en cette belle journée, la fête des mères, de le souligner. Vous savez comment c'est, vous avez peut-être, si vous êtes une mère et vous avez des jeunes enfants, ils vont peut-être vous écrire des petits mots aujourd'hui, une petite carte. Et c'est ce qui est arrivé avec sa petite fille de 8 ans, Angie, qui écrit une petite carte de « Bonne fête, maman ». Voici ce qu'elle lui dit. Elle dit « Bonne fête, maman. Je vais te préparer le souper. C'est une surprise. » Puis en bas, elle écrit « PS, j'espère que tu aimes la pizza et le popcorn. » Robert, lui, un petit gars, il écrit à sa mère, il dit « Maman, je t'ai acheté une tortue pour la fête des mères. » J'espère que tu vas la préférer au serpent que je t'ai acheté l'an passé. Ouais, wesh. Eileen dit, chère maman, j'aurais tellement aimé que la fête des mères tombe pas toujours le dimanche. J'aurais préféré lundi. Comme ça, j'aurais eu congé, pas d'école. OK, bonne fête, maman. Diane, elle écrit, elle dit, j'espère que tu vas aimer les fleurs que j'ai pour la fête des mères. Je les ai enlevés moi-même quand M. Smith ne regardait pas. Elle les a peut-être coupées, elle a probablement coupé chez le voisin. Petite carte de Carole à sa maman. Chère maman, voici deux aspirines, je te souhaite une bonne journée. OK. Bon, écoutez, c'est certain que les cadeaux ne sont pas parfaits, c'est pas idéal, mais on peut certainement voir que ces petits-enfants-là sont... veulent exprimer, ils aiment, c'est des petits bouts de chou, puis ils aiment maman, puis ils veulent exprimer vraiment certainement leur affection à leur mère. Mais vous savez, c'est pas juste quand on est jeune qu'on veut montrer notre affection et notre reconnaissance à maman, pour toutes les choses qu'elles nous ont apprises. C'est même quand on est vieux, il y a un monsieur qui dit, vous savez, moi j'ai appris un paquet d'affaires de ma mère. Mon ami, elle dit, tout ce que je sais, moi c'est ma mère, elle m'a enseigné tellement d'affaires. Elle dit, par exemple, ma mère m'a enseigné la logique. Moi j'ai appris la logique de ma mère. Ma mère me disait, écoute bien là, écoute bien, jeune, si tu tombes en bas de la balançoire, tu te casses le cou, ben tu ne pourrais pas venir avec moi au magasin. Là. Ça, c'est la logique. Il dit, moi, j'ai appris la logique de ma mère. Une autre fois, elle me dit, si quelqu'un se jette en bas de la falaise, vas-tu faire pareil? Et moi, je me souviens de m'être servi de ça comme argument à mes enfants. Là, de quoi? Là, tout le monde le fait à l'école, je le sais, là, mais si quelqu'un se jette en bas de la falaise, vas-tu le faire? T'as souviens-tu de ça? Ben, moi-même, j'ai fait ça à ma mère. Je ne sais pas bien en être, là. Ma mère m'a également enseigné l'humour. Le gars, il dit, poursuit. Il dit, moi, non seulement j'ai appris la logique, mais j'ai appris aussi l'humour de ma mère. Il dit, un jour, elle me dit, quand la tondeuse va te couper l'orteil, viens pas courir à moi pour avoir de l'aide. Là. La génétique. J'ai appris de ma mère la génétique, il dit. Elle me disait souvent, elle dit, t'es pareil comme ton père. La génétique, l'anticipation. Elle dit, attends que ton père arrive. J'ai appris comment recevoir. Elle me dit, attends qu'on arrive à la maison, tu vas l'avoir. J'ai appris la religion avec ma mère. Ma mère, elle me disait, t'as besoin de prier que la tache s'enlève du tapis. J'ai appris la justice. Un jour, elle me dit, tu vas avoir, quand tu vas avoir des enfants, j'espère qu'ils vont te ressembler, là, tu vas vraiment comprendre. J'ai assez hâte. La justice. Et on apprend un paquet d'affaires de nos mères. Puis c'est vrai, les études le démontrent. Ils ont fait une étude, puis c'est vraiment intéressant. Vous savez, vous avez toujours l'impression que vos enfants viennent toujours vous voir puis vous posent des questions. Toutes sortes de questions, là. Ils sont toujours en train de vous poser des questions. Bien là, c'est vrai, on a des chiffres. On a des chiffres à l'appui qui le prouvent. Imaginez. Il semblerait qu'une femme au foyer, ils ont fait différentes études, mais une femme au foyer se fait poser une question à toutes les 2 minutes 36 secondes. Par leurs enfants. Incroyable, hein? Ils ont fait le décompte, puis ça représente 105 120 questions par année. Tu t'es demandé pourquoi tu étais fatigué à la fin de la journée? Ils n'arrêtent pas de poser des questions. C'est vrai que le moment le plus intense, c'est l'heure des repas. Petite fille de 4 ans, ça a l'air, c'est le plus intense. Fille de 4 ans. Ce sont les plus curieuses. C'est vrai que c'est les plus curieuses. Elle demande 390 questions par jour. Hey, c'est yeah, yeah. Presque 400 questions par jour. Voici les 5 questions les plus difficiles au dire des mères. Parce que là, ils ont fait une entrevue auprès de 1000 mères. Et voici ce que ça dit. 1. Pourquoi l'eau est mouillée? Hey, c'est profond, ça. Pas mal profond, là. Pourquoi l'eau est mouillée? Ça, ça a l'air que c'est une des questions, là. Que... Deuxièmement, le ciel finit où? 3. L'ombre s'est faite de quoi? 4. Pourquoi le ciel est bleu? Souvenez-vous de ça? 5. Comment les poissons peuvent respirer sous l'eau? Ah oui, les 5 questions. Hey, les mères, là, vous nous enseignez un paquet d'affaires. C'est une vraie encyclopédie, cette affaire-là. D'ailleurs, c'est ce que la Bible dit. Il y a un auteur qui s'appelle Lemuel. C'était pas n'importe qui, c'était un roi. Puis c'est ça qu'il dit. Et non seulement ça, il va écrire un proverbe qui est devenu un classique aujourd'hui. Mais le proverbe, au début du proverbe, il dit déjà les 3 choses qu'il a apprises de sa maman. Maintenant, c'est évident que sa mère lui a enseigné un paquet d'affaires, là, mais il en donne 3. C'est vraiment intéressant parce que le roi donne 3 instructions qu'il a vraiment bien retenues, mais le roi le dit à son peuple. Alors, c'était assez important pour lui qu'il a jugé nécessaire comme roi de le dire publiquement au peuple. Et il est le roi, là, pas n'importe qui. Et non seulement ça, c'est assez important que le Saint-Esprit a décidé de l'inclure et d'inspirer les paroles, évidemment, de Lemuel, mais de l'inclure dans un proverbe. Alors, imaginez l'importance de cet enseignement-là, qui est un éloge, en fait, d'un roi qu'il fait à l'endroit de sa mère, mais en même temps, on a toute une révélation sur les mères. Et ça nous touche tous, que vous soyez célibataire, que vous soyez mari, père, que vous soyez une mère ou une mère en devenir, ou si vous ne l'êtes pas, peut-être que vous allez l'être un jour, peut-être pas, mais c'est vraiment utile pour chacun d'entre nous. Vous allez voir pourquoi. Et c'est un classique. Avec les années, on a commencé à appeler ce passage, ce classique, ce proverbe 31, la femme vertueuse. On va voir des angles ce matin de ce passage-là, important. Alors, proverbe 31, moi j'aimerais vous encourager, si vous avez votre Bible, à tourner dans le proverbe 31. Et on va lire ce passage ensemble, si vous voulez bien. Tiens, on va juste se courber juste avant pour demander au Seigneur sa bénédiction. Seigneur, tout d'abord, nous voulons te remercier de tout cœur pour la famille. C'est un don de Dieu, c'est toi qui as créé la famille, nous voulons te louer pour la famille. Et on te remercie, Seigneur. Il y a des gens ici qui sont ici, et c'est la fête des mères est peut-être particulièrement difficile ce matin. Et on veut te prier que tu puisses mettre un baume sur leur cœur, et que tu puisses les bénir abondamment d'une façon très spéciale ce matin. Pour d'autres, nous avons tous besoin, en fait, d'étudier ta parole et nous te prions que ton esprit nous ouvre les yeux de notre cœur afin que l'on comprenne la richesse et la profondeur et l'urgence d'obéir avec joie, avec zèle, les enseignements que nous trouvons dans ce passage. Aide-nous à comprendre, à saisir ce message que ton serviteur Lemuel a écrit ici dans ce chapitre. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, proverbe 31. Parole du roi Lemuel. Message par lequel sa mère l'a instruit. Donc, vous voyez, c'est cette instruction qui vient de sa mère. Et il fait part de ces instructions-là. Il dit, « Que te dirais-je, mon fils? » Alors, en d'autres mots, voici ce que ma mère m'a enseigné, m'a dit. « Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mon ventre? Que te dirais-je, fils de mes vœux? Ne livre pas ta force aux femmes, ni tes voix à celles qui causent la perte des rois. Ce n'est pas au roi Lemuel, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher les boissons fortes. En effet, en buvant, il pourrait oublier les lois et porter atteinte à la cause des plus malheureux. Donner des liqueurs fortes à celui qui va mourir, du vin à celui qui est rempli d'amertume, qu'il boive et oublie ainsi sa pauvreté, et qu'il ne se souvienne plus de sa peine. Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s'exprimer, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et le pauvre. Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et c'est tout bénéfice pour lui. Elle lui fait du bien, non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Pareil à un navire marchand, elle rapporte ses provisions de loin. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit et elle donne la nourriture à sa famille et ses ordres à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'achète. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec la force en guise de ceinture, elle affermit ses bras. Elle constate que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle file elle-même la laine, elle tisse elle-même les habits. Elle ouvre ses bras aux malheureux. Elle tend la main aux pauvres. Elle ne redoute pas la neige pour sa famille, car chacun y est habillé de cramoisi. Elle se fait des couvertures. Elle a des habits en fin lin et en pourpre. Son mari est reconnu aux portes de la ville lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. La force et l'honneur, voilà ce qui l'habille. Elle rit en pensant à l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Il y a un enseignement plein de bonté sur sa langue. Elle veille à la bonne marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari aussi. Et il chante ses louanges. Bien des femmes font preuve de valeur, mais toi, tu leur es à toutes supérieure. La grâce est trompeuse, la beauté illusoire. C'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. Donnez-lui du fruit de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres fassent son éloge. Qui trouvera une femme de valeur, dit le verset 10. À partir du verset 10, il y a vraiment une description de la femme vertueuse. Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que des perles. Le mot hébreu ici pour la femme de valeur se traduit de différentes façons selon le contexte. Par exemple, dans le livre de Genèse, on va voir le mot traduit par une personne riche, la richesse. Donc, ça vaut de la richesse. On va voir le mot capable aussi, parfois, le mot est traduit dans Genèse 47. Le Pharaon dit à Joseph, le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Gozen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête du troupeau. Encore à nouveau, on le voit dans Exode 18, choisis parmi tout le peuple des hommes capables, qui craignent Dieu, des hommes intègres, ennemis du gain malhonnête. Établis-les sur eux comme des chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Dans Nombre, il est traduit par force. Dans les psaumes, par puissance. Alors, on parle d'une femme qui est capable, forte, puissante, et c'est précieux, ça a de la valeur. Qui trouve une telle femme, elle a plus de valeur que des perles. Je ne sais pas si vous avez déjà lu, et c'est tout à fait juste en passant, parce que je ne sais pas si vous avez déjà lu ce sondage qui a été révélé il y a à peine une couple d'années, ça fait pas tellement longtemps de ça, c'est dans la revue Forbes, où on a essayé de comptabiliser combien ce que ça coûterait, tout le travail qu'une femme va faire à la maison. On a fait le décompte, on a accumulé tout le travail, le nombre d'heures qu'elle travaille, le surtemps qu'elle donne et tout ça, puis on a fait l'étude pour les deux genres de femmes, les femmes qui sont au foyer, puis les femmes au travail. Ça vaut une fortune. Ils passent tellement d'heures à travailler, ça n'arrête pas. Alors, regardez bien ceci, pour les mères au foyer, avec les heures qu'elles mettent, à s'occuper de tout, ça donne environ l'équivalent, c'était pour embaucher des gens pour faire ce travail-là, la même chose, ça donne l'équivalent de 113 000 $ de salaire par année. Et même la femme au travail, elle arrive à la maison, le travail n'est pas fini, n'est-ce pas? Vous le savez, hein? C'est 67 000 $ par année que ça vaut, tout ce travail-là qui se fait. Alors, c'est tout à fait juste, qui trouve une femme vertueuse, elle a plus de valeur que des perles. Lemuel, le roi, va donner donc cette description de la femme vertueuse à partir du verset 10, et ça va se poursuivre jusqu'à la fin du chapitre, verset 31. Il donne des qualités, dans le fond, de la femme vertueuse. Il nous informe que la femme vertueuse aura, si on garde ça simple, elle a 6 qualités. Il fait ressortir 6 qualités à partir du verset 10 jusqu'à la fin. Premièrement, on peut avoir confiance en elle. Tu peux coucher ses deux oreilles. tu peux avoir confiance en elle. Elle va faire du bien à la famille, tu peux avoir confiance. Et dans ce contexte culturel, c'est très important. Un détail très important, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à cette époque, dans cette culture-là de l'Orient, les mariages étaient arrangés souvent. Tu n'allais pas voir papa et dis, bon, mais papa, moi, j'ai un garçon que je trouve pas mal cute, il est pas mal fin, est-ce que je pourrais le marier, tout ça. Non, tu ne voyais pas ça, c'était vraiment les parents qui décidaient, c'était le père d'ailleurs qui avait beaucoup d'autorité à cette époque-là, dans ce contexte-là. Moi, je suis bien content qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait comme ça, qu'on peut avoir le choix. Mais en même temps, je trouve ça très honorable des enfants de venir voir les parents, leur demander ce qu'ils en pensent, s'ils approuvent et tout ça. Moi, mes gendres ont fait ça. Mes gendres sont venus me voir. J'étais très nerveux d'ailleurs, un de mes deux gendres. Il a même demandé à des chrétiens de son église de prier pour sa grosse rencontre qu'il devait avoir avec celui qui allait peut-être devenir le futur beau-père. Il avait peur de moi. Il dit, hey, il faut que j'aille voir ce monsieur-là, c'est le père de Julie. Puis finalement, ça a bien été, puis on est bien contents. On remercie le Seigneur pour ces jeunes-là. Mais je trouve ça très honorable. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, c'était le père qui décidait. Puis même, il y a des femmes qui ne connaissaient même pas le mari. Pas du tout, pas l'homme qu'elle allait marier. Elle ne connaissait même pas. C'était tout à fait le père qui décidait. Alors, vous pouvez comprendre, dans un tel contexte, parfois, il y avait de la rébellion, il y avait certaines femmes pouvaient faire même du mal et bouder pour réagir. Et on peut comprendre, on comprend certainement, là. Parce que des fois, le père pense que c'est bien, mais il connaissait pas le gars, et ça allait mal, ça allait pas comme il espérait. Alors, il y avait toutes des réactions dans le foyer. Donc, de Lemuel de dire ceci, la femme vertueuse, c'est une femme qui va faire du bien. Même dans le contexte où c'est un mariage arrangé, elle va même choisir, tu peux faire confiance en elle. Donc, c'était gros pour Lemuel de dire ça dans ce contexte culturel de l'époque. C'est gros, ça. On peut faire confiance en elle. Elle est bonne pour lui, pour son foyer, verset 12, sa deuxième belle qualité. Troisièmement, elle est diligente. Une femme vraiment là, comme passionnée à faire du bon travail pour son foyer. Quatre, elle a une belle attitude. Même s'il y a beaucoup d'ouvrages, on voit qu'elle travaille très fort. Et quand même, elle n'est pas parfaite. Et c'est sûr qu'il devait avoir des moments de frustration. Moi, vraiment, si tu éduques des enfants, tu vas être frustré, c'est sûr, tu le sais. Si tu as des enfants, il y a des moments où c'est dur, c'est pas toujours joyeux. Il t'arrive avec une sorte de surprise des fois. Ça obéit pas tout le temps, puis c'est frustrant. Ça prend beaucoup de patience. Néanmoins, il y a quelque chose qui ressort, une belle qualité qui ressort de la femme vertueuse, c'est qu'elle est joyeuse. C'est une femme qui est joyeuse. Cinquièmement, elle est généreuse, puis elle est compatissante. On voit qu'elle veut faire du bien à ceux qui sont démunis, qui souffrent. Elle a une sensibilité. Et sixièmement, elle est confiante. Elle se rit de l'avenir. Femme qui a de la foi, verset 25 nous dit ceci. Et pourquoi qu'elle est vertueuse? Et c'est vraiment la clé. C'est vraiment intéressant. Habituellement, ce qu'on va voir, une personne qui va faire un résumé au début, puis il va développer. Nous, on apprend ça. À l'école, hein, surtout au secondaire, on va dire, bon, tu mets ton idée principale au début, après ça, tu le développes, tu justifies, t'appuies. On appelle ça une approche déductive. Ici, c'est le contraire, on appelle ça une approche inductive, c'est comme une histoire. Et à la fin, ce qu'il fait, dans le fond, il donne l'apogée, qui est le point central, la leçon centrale de tout le chapitre. Il termine avec ça en disant, mais pourquoi qu'elle est comme ça? C'est parce que c'est une femme qui craint Dieu. Donc, tout le chapitre s'englobe dans cette leçon, à la fin, il dit, voici une femme qui craint Dieu, voici une femme qui aime Dieu. C'est pour ça qu'elle est si vertueuse. C'est ça son secret. Et verset 30 le dit, la grâce est trompeuse, la beauté est illusoire. C'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. Et c'est ce qu'il est en train de faire en passant le muet. Il est en train de souligner les belles qualités. Et ce que l'on pense, certains commentateurs, on pense même qu'il est en train vraiment de parler de sa mère. Je ne suis pas certain, mais quoi qu'il en soit, voici une femme, c'est une femme de Dieu, elle craint Dieu. Et d'ailleurs, le texte laisse entendre que c'est vrai pour les deux, le couple, la femme et le mari. Les deux tirent plaisir d'une relation qui est spirituelle, qui est robuste, qui est solide. Alors, en d'autres mots, on a le portrait ici d'un couple qui marche avec Dieu. Voici une femme vertueuse, c'est le portrait, voici ce que ça a de l'air. ma mère me disait, vous voyez le début du chapitre, ma mère m'instruisait de faire bien attention avec qui j'allais me marier. Et là, tu as le portrait après, voici ce que ça a de l'air, la femme que je devrais viser en mariage. Donc, c'est pour ça que vous voyez que le passage est très important pour chacun d'entre nous. Il est important pour les célibataires. Voici le genre de personne que tu veux marier. Et toutes les belles qualités peuvent se retrouver autant pour un homme que pour une femme. Une femme, un homme, la même chose. On met l'accent un peu ce matin sur la femme, c'est la fête des mères, mais voici qui tu veux viser et pour lequel tu devrais prier comme conjoint. C'est ce que tu veux. Et c'est ce que tu veux devenir si c'était une épouse et si c'était une mère. Et on comprend que cette personne-là n'était pas parfaite, évidemment, on le sait ça. Mais c'est ce que tu vises, ça devient une requête de prière. Voici ce que je veux devenir comme mère, comme épouse. Donc, c'est la femme vertueuse. Voici une femme vertueuse, une femme qui est pieuse, une femme qui craint Dieu. Le mot « crainte » dans la Bible est souvent mal compris. L'expression « la crainte de Dieu » va revenir très souvent dans l'Ancien Testament. Mais quand on observe le contexte, on fait une étude vraiment de cette expression-là, « la crainte de Dieu », c'est encore de plus en plus compliqué. Parce que c'est perplexe. Vous allez voir pourquoi. Tout d'abord, on associe souvent la crainte de Dieu dans l'Ancien Testament avec la joie. Aussi bizarre que ça puisse sembler, parce que nous autres, on va faire la confusion. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mêler la crainte de Dieu avec la peur. Et parfois, c'est de la peur dans l'Ancien Testament, mais pas lorsqu'on parle nécessairement avec la crainte de Dieu. Lorsqu'on voit cette expression-là, la crainte de Dieu, il faut absolument mettre les versets ensemble pour avoir une définition juste de ce que c'est la crainte de Dieu. Puis on arrive petit à petit, en regardant différents versets dans l'Ancien Testament, pour voir comment on utilise cette expression-là. Mais regardez ça, comment ça peut sembler étrange et presque contradictoire. Mais je pense qu'on peut tirer certaines conclusions quand même. On va associer, par exemple, la crainte de Dieu avec la joie dans l'Ancien Testament, une grande joie. Le Proverbe 28 dit, regardez bien, ça fait étrange, « Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. » Maintenant, ça, c'est étrange, parce que quelqu'un qui a peur, pas joyeux, ben, c'est pas le fun d'avoir peur. Hein? Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Comment celui qui est constamment dans la crainte peut-il être heureux? D'autres passages nous disent que nous pouvons grandir dans la crainte de Dieu. Tu peux effectivement grandir, avoir de plus en plus la crainte de Dieu. C'est quoi? C'est de plus en plus peur de Dieu? 2 Chroniques 26 et le psaume 34. On voit aussi que la crainte est également associée à la louange, à l'émerveillement, puis à de grandes réjouissances. C'est vraiment étrange. Dans le psaume 40, Ésaïe 11. Vraiment intéressant. La crainte est associée à la louange, à l'émerveillement et à la réjouissance. Comment c'est possible? Si ce n'est pas assez compliqué, laissez-moi vous donner un autre passage. Psaume 130 qui dit ceci. Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Il me semble que plus je me sens pardonné, moins je devrais avoir peur. N'est-ce pas? C'est vrai. Donc, ça ne peut pas vouloir dire de la peur. Ah, plus que tu me pardonnes, plus je me sens accepté de toi, plus j'ai peur. Non, ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas, ça. Alors, le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Le pardon, la grâce, augmente la crainte du Seigneur. Maintenant, on va confondre la crainte et la peur. Mais c'est pas pareil. Juste le psaume 130. Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Ça démontre que la crainte de Dieu ne peut pas vouloir dire la peur, puisque la peur diminuerait avec le pardon. Mais ici, elle augmente. Le vrai sens de la crainte du Seigneur dans l'Ancien Testament implique plutôt les relations. La peur de son côté dans la Bible signifie être contrôlé par quelque chose, être dépassé. dans la Bible, le mot traduit par crainte n'évoque pas vraiment la notion de peur, mais plutôt un engagement total, une relation. Dans le psaume 130, par exemple, nous voyons que la crainte de Dieu augmente en présence de la grâce et le pardon. En d'autres mots, ma relation avec Dieu, mon engagement avec Dieu, augmente devant sa grâce et son pardon. Maintenant, il y a une sainte crainte. Et oui, on peut avoir peur dans le sens que si je pêche, il y a une sainte crainte et peur dans ce sens-là que Dieu peut punir le péché, peut choisir de punir le péché. Et dans ce sens-là, oui, certainement, il y a une saine peur. Oui, on comprend ça. Mais comment ça se fait d'abord que ma crainte augmente, la crainte de Dieu va augmenter à mesure que je me sens pardonné et que je comprends de plus en plus l'acceptation de Dieu? Ça veut dire plus que ça. Donc, la crainte de Dieu parle donc d'un émerveillement plein d'amour, de joie devant la grandeur de Dieu. Et en d'autres mots, l'expression « la crainte de Dieu » englobe quelque chose de très positif, de très énergisant. C'est pas quelque chose, tu sais, vous savez comment on a été élevé, si moindrement vous avez été élevé dans une religion qu'on connaît bien ici au Québec, qui est très fort, on avait peur de se faire frapper par un 2x4 par Dieu, on attendait juste le moment où Dieu allait nous frapper quand on faisait une bêtise. Vous avez connu ça, quelques-uns parmi vous, là? Mais c'est pas du tout comme ça qu'on comprend dans les Écritures qu'on va enseigner la crainte de Dieu. On n'a pas à marcher tous les jours avec une peur que Dieu va nous frapper à tout moment parce qu'il y a peut-être un péché que je suis pas conscient et qui n'est pas encore pardonné, puis Dieu va me frapper. Absolument pas. C'est pas comme ça que l'Ancien Testament va parler de la crainte de Dieu. Non, au contraire, ce que l'on découvre, on découvre un émerveillement plein d'amour. Et c'est ça la crainte de Dieu. C'est aussi ça, d'avoir la crainte de Dieu. En d'autres mots, à mesure que je saisis, que je comprends la beauté, l'émerveillement de l'Évangile, plus je comprends la beauté de l'Évangile et ce que Dieu a fait pour moi à la croix, plus j'aurai de la crainte de Dieu, c'est-à-dire plus je vais m'engager, m'attacher et je vais aimer davantage le Seigneur. En d'autres mots, la crainte de Dieu va augmenter. C'est dans ce sens-là. Oui, si je ne suis pas repentant, puis je vis dans le péché, puis je continue dans le péché. Oui, à quelque part, Dieu dit par amour, je dois te corriger, te reprendre. Et Dieu va permettre des épreuves dans ta vie parce qu'il t'aime trop pour te laisser aller. Il veut te ramener à lui, comme un parent va le faire. Ça fait partie de l'amour. Mais en même temps, ce n'est pas juste ça. C'est plus que ça. Ça parle de l'émerveillement devant la grâce de Dieu à me pardonner cela, fait augmenter en moi la crainte de Dieu, c'est-à-dire je veux me donner davantage, je me rends à lui, je m'abandonne à lui de plus en plus. Je m'engage, je m'affectionne. Et ça fait partie de la crainte de Dieu. Alors voici une femme donc qui a cette crainte de Dieu, elle aime Dieu. Regardez, elle a la crainte de Dieu, mais en même temps, c'est une femme qui est super joyeuse, voyez-vous? Ce n'est pas une femme qui vit dans la peur. C'est une femme qui est joyeuse, qui a une joie de vivre. Et c'est ça la beauté de la crainte de Dieu. Il y a une apparente contradiction là-dedans. Mais c'est ça qui est merveilleux. Alors voici cette femme qui a la crainte de Dieu, elle aime Dieu, elle prend plaisir en Dieu. Alors on a la description de la femme vertueuse dans les versets 10 à 31. C'est une femme de Dieu. Elle aime Dieu et son amour pour Dieu a tout un impact dans sa façon de voir la vie. Elle est joyeuse, elle est heureuse. Et ça a un impact, ça a des incidences dans sa façon d'élever ses enfants, dans sa façon d'aimer son mari, sa façon de se conduire au foyer. Et c'est ce que l'Évangile va produire dans nos vies. À mesure que tu t'approches de l'Évangile, à mesure que tu seras saisi de la beauté de ce que Dieu a fait et à quel point il t'a aimé, à mesure que tu vas avoir cette crainte de Dieu, tu vas vouloir aimer Dieu, t'engager, le servir, te donner, et ça va avoir tout un impact dans ton foyer. C'est sûr que ça va avoir un impact dans ton foyer. Et c'est ce que l'Évangile produit. Et c'est ce que le muel est en train de faire ressortir dans les premiers versets du Proverbe. Maintenant, ce que les gens font souvent, lorsqu'ils arrivent dans le Proverbe 31, ils vont tout de suite sauter sur le verset 10 où on voit la description de la femme vertueuse. Mais il néglige de regarder les premiers versets du Proverbe Alors que là, Muel est en train de dire, voici moi ce que j'ai appris de ma mère. Moi, j'ai appris des choses vraiment importantes de ma mère. Et le mot « message » ici, par exemple, le verset 1, regardez comment ça commence, le chapitre, ça dit « Parole du roi Lemuel, message par lequel sa mère l'a instruit. » Alors, voyez ce mot « instruire » traduit par « message » ou « instruction »,« oracle ». En fait, le mot hébreu parle de fardeau. Sa mère avait un fardeau sur le cœur qu'elle voulait transmettre à ses enfants, à son fils. Et vous savez, vous comprenez très bien si vous êtes une mère, hein, ce fardeau-là qu'on a à bien éduquer nos enfants. Elle a un fardeau qu'elle traîne sur son cœur, elle le porte sur son cœur, c'est pour ça qu'elle prie pour son fils. Elle a un fardeau qu'elle communique. Alors, elle se souciait de lui, elle voulait que son fils conduise bien le peuple, qu'il marche avec Dieu. Mais dans le roi répète en quelques mots ce que sa mère lui a instruit, lui a enseigné. Il souligne trois choses. Un, il dit, fais attention avec qui tu vas sortir, que tu vas fréquenter, puis avec qui tu vas te marier. Fais attention, fais un bon choix. Et c'est intéressant que tout de suite après, il va dire, voici le genre de femme que tu veux avoir si tu te maries. Certainement que tu veux qu'elle marche avec Dieu, qu'elle craint Dieu. Fais attention avec qui tu vas te marier, verset 3. Deux, bois avec modération. Maintenant, les rois avaient des caves à vin et tout ça, mais ce qui est dit ici, dans le fond, c'est fais attention à la boisson. Vous pouvez réaliser que dans ce temps-là, on ne vivait pas dans un pays démocratique. Et lorsque le roi décidait quelque chose, ça se traduisait dans le quotidien de tout le pays. Là. Imaginez un roi là, qui est en état d'ébriété, puis d'un coup décide, tiens, moi je veux avoir ça pour le pays. Paf, là, il prenait des mauvaises décisions qui avaient des conséquences pour des années. Et ça c'était vraiment la femme. Sa mère dit, fais attention à ça. Tu vas avoir un bon jugement. Tu veux te réfléchir. Tu vas avoir la sagesse. Et troisièmement, il dit, prends soin des démunis. Prends leur cause. Défends-les. Il y a des gens qui seront sans défense, ne pourront pas se défendre devant des gens qui seront riches, puissants, tout ça. Toi, défends-les. En d'autres mots, mets même des lois pour les protéger. Alors, sa mère lui a enseigné un paquet d'affaires. C'est sûr que sa mère lui a enseigné bien d'autres affaires. Je ne sais pas s'il n'y avait pas de brosse à dents dans ce temps-là, mais certainement qu'il a montré de l'hygiène, comment brosser ses dents, je ne sais pas, moi, dans ce temps-là. En tout cas, certainement, il a montré comment bien se tenir et tout ça, parler. Mais c'est intéressant que Lemuel va non seulement retenir, il a retenu un paquet de choses, mais ce qu'il tient à ce que tout le peuple sache, parce que n'oublions pas, là, ça c'est le roi, il dit, voici ce que ma mère a enseigné, puis je veux que vous le sachiez. Tout le peuple, le pays au complet, je veux que vous sachiez. Et le Saint-Esprit juge que c'est assez important qu'il veut que chacun d'entre nous puisse comprendre puis saisir. Et tout le chapitre nous montre qu'une femme vertueuse, essentiellement, là, ça veut dire quoi? C'est une personne qui a quatre amours dans sa vie. On pourrait le mettre au plus simple, une femme vertueuse a quatre amours dans sa vie. Un, elle aime son Dieu. Elle aime son mari, elle aime sa famille, puis elle aime son prochain. Tu regardes tout ça, là, tout le chapitre, on peut résumer ça très simplement. Elle aime son Dieu, elle aime Dieu, elle aime son mari, sa famille, puis son prochain. Et cet amour pour Dieu va se répandre dans le foyer. Puis on a l'exemple de la mère de Lemuel. Voici une femme qui enseigne son fils sur Dieu, sur la façon de vivre et d'honorer Dieu. Puis qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, marche avec Dieu. Elle aide son fils à découvrir la beauté de Dieu puis à marcher avec lui. Alors, vous avez tout un rôle, maman. Peut-être que vous n'avez pas l'impression, des fois, d'avoir beaucoup d'influence sur vos enfants, mais laissez-moi vous dire que vous avez beaucoup d'influence. D'ailleurs, les études le démontrent. C'est intéressant, cette étude-là qui a été réalisée il n'y a pas tellement longtemps. On pouvait voir le résultat des recherches qui démontraient l'influence que vous avez, vous autres, les mères, auprès des enfants. Premièrement, on a découvert que les mères influencent le genre de conscience que nos enfants auront, une conscience solide ou pas. Elles influencent la façon dont nos enfants choisiront intuitivement entre le bien et le mal. Elles influencent la façon dont leurs enfants seront soit égoïstes, soit enclins à tricher ou à partager avec les autres et jouer en suivant les règles. C'est toute une influence. Maintenant, aucune mère n'est parfaite. Évidemment, on le sait. Mais une mère qui aime Dieu est aussi très consciente de ses faiblesses. Elle a cette humilité-là. Puis c'est pour ça que Dieu sera au centre de son foyer, parce qu'elle sait à quel point elle dépend de Dieu pour éduquer les enfants. Et ça, c'est un message, évidemment, qui ressort très fort dans tout le chapitre, de mettre le Seigneur au centre de ton foyer. C'est intéressant, au Kansas, par exemple, il y a une église, il y a un bâtiment d'église. Juste en avant du bâtiment de l'église, il y a un trottoir. Et lorsqu'ils étaient en train de fabriquer le trottoir, alors que le ciment n'était pas tout à fait sèche, il y a une mère qui est venue avec son petit gars, un petit bébé, un petit garçon. Elle est venue, puis elle est allée voir les autorités, tout ça, puis elle a demandé la permission si elle pouvait prendre son fils et enlever les souliers de son petit gars, puis tenir son fils et faire tenir son petit gars debout dans le ciment. Vous savez, des fois, on voit des marques d'un trottoir, c'est parce que c'était pas encore sec, puis quelqu'un a pilé dessus. Elle est allée voir les autorités, elle a eu l'autorisation d'aller prendre son petit gars, puis d'aller enlever les souliers. Fait que là, tu as cette église au Kansas, avec deux traces de pieds, juste en avant de la bâtisse, qui pointent vers l'église. Et encore aujourd'hui, des années et des années et des années plus tard, tu peux voir des traces de pieds qui pointent vers l'église. Et le message que la mère voulait enseigner à son petit gars, et toute sa vie, c'est que place le Seigneur en premier. Imaginez, le gars a peut-être 30 ans aujourd'hui, et il peut voir ça, et le message est toujours là, que sa mère a voulu lui inculquer. Place le Seigneur en premier. Et ça, mes amis, c'est la leçon que nous avons ici dans ce passage, dans le Proverbe 31. Et ça conclut en disant, verset 31, que l'on récompense ça, que l'on récompense sa peine, que l'on chante ce qu'elles font même en public, composer des cantiques soulignant ce qu'elles font. Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est que pour nous, les maris, et pour les enfants, on a besoin de le dire, pas juste en privé, il faut le dire en privé, mais il faut aussi le dire en public, de parler en bien de nos femmes, ce qu'elles font, le souligner, le dire, vanter nos femmes. C'est ça que Lemuel est en train de dire. Vanter vos femmes. Est-ce que j'entends des hommes dire « Amen » Je sais que les femmes ont bien le goût de dire « Amen ». Mais c'est ça que Dieu dit par son esprit à travers la plume de Lemuel. Vantez vos femmes. Faites-le en privé. Faites-le en public. Honorez-les. Élevez-les. Soulignez ce qu'elles font. Et vous, maman, vous êtes appelée ici à mettre le Seigneur au centre de votre foyer. Seigneur notre Dieu, apprends-nous, comme Marie, à honorer, à élever nos épouses, que nos épouses se sentent honorées à la maison par leur mari, par nous. Oui, Seigneur, aide-nous à être de bons maris. Aide-nous à communiquer à nos épouses que nous sommes fiers d'elles, nous les honorons. Aide-nous, Seigneur, parce que parfois on peut être si critique. Enlève la critique de nos bouches et de nos cœurs. Et aide-nous, Seigneur, à les élever, en public comme en privé. Aussi, Seigneur, nous te demandons que tu puisses bénir les mères ici ce matin. Et ceux qui sont malades, qui ne peuvent pas être avec nous ce matin. Nous te prions que tu puisses leur faire du bien, les bénir abondamment. Que tu puisses les accompagner, les aider à grandir en toi, Seigneur. Pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.